BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com. Cette semaine, on va parler de Good Advertising avec Luke Wise. C'est le fondateur de The Good Company. On s'intéressera aussi à la communication des entrepreneurs avec Xavier Kergal, le directeur général du Salon des Entrepreneurs, et Juliette Eskenazi, la fondatrice de l'agence Poussin Communication. Et puis en fin d'émission, on rencontre avec un formateur et consultant en prise de parole qui a décidé de monter sur scène, Emmanuel Schilla. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors avec vous, les news cette semaine. D'abord, ce record pour le marché de la pub en 2018, la pub digitale.
Exactement, le marché de la pub en ligne a progressé de 17% l'année dernière pour atteindre près de 5 milliards d'euros, du jamais vu depuis 2009 d'après les chiffres de l'observatoire de l'ePub. La quasi-totalité de la croissance du secteur est captée par les moteurs de recherche, essentiellement Google, et les réseaux sociaux, essentiellement Facebook.
Oui, on s'en serait pas douté. L'agence Marcel crée Granoland. Alors, c'est un pays fictif pour la marque de biscuits Granola.
Dans une vidéo d'un peu plus d'une minute trente, on découvre une véritable nation unie autour de Granola, avec des granolandais, un hymne national, une équipe de foot, ou encore une Miss Granoland avec du chocolat sur les dents. Bref, des citoyens unis comme chocolat et biscuits, car c'est leur philosophie.
Effectivement, Marie, ça doit vous convenir, ça, une pub pleine de chocolat, j'en étais sûre. On reste dans le domaine de l'agroalimentaire avec la marque Danone qui célèbre ses 100 ans dans sa nouvelle campagne.
Danone, une marque engagée pour les 100 années à venir et les générations futures, c'est le message de la nouvelle campagne. Dans 4 spots télé, des enfants nous redonnent la recette du yaourt, celle de 1919, du lait et des ferments, rien d'autre, une campagne imaginée par BETC.
Et puis La Forêt présente le programme Tous la forêt pour reboiser la France.
Le réseau se lance dans une action citoyenne et s'engage à planter un arbre pour chaque vente immobilière réalisée, soit un potentiel d'environ 30 000 arbres par an. L'opération est menée avec la société Reforest et dans un premier temps, les arbres seront plantés dans la forêt landaise, particulièrement touchée par la tempête Klaus en 2009. Le projet est orchestré par l'agence Les Gros Mots.
Frédéric, encore une nouvelle fois, les marques nous prouvent qu'elles s'engagent.
Oui, mais en fait, je pense que le mot de l'année, je prends le pari, ce sera « good ». On sait pourquoi, on va le voir tout à l'heure, mais « good », c'est mieux que bien, voilà. C'est ça qu'il faut dire.
Bon, on va voir ça tout de suite.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Luke Wise. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ex-cofondateur d'Hérési, ancien Publicis. Vous lancez votre nouvelle agence qui s'appelle The Good Company. J'ai lu que vous ne vous voyez pas devenir un bourgeois de la pub parisienne. C'est ça qui a motivé votre départ de chez Publicis?
Non, enfin, je pense que c'est un peu plus que ça. Enfin, de facto, je suis devenu un bourgeois de la publicité parisienne. En vrai.
Entre nous.
Voilà. Après, je pense que ce que je voulais dire par ça, c'est que le contexte à la fois dans nos industries de la communication et puis le contexte plus large mondial fait qu'on peut pas s'embourgeoiser, s'endormir et qu'il faut au contraire se remettre en question pour essayer d'inventer des nouveaux modèles qui peuvent être des nouveaux modèles plus digitalisé, ça on a eu beaucoup d'exemples de transformations digitales, mais aussi des nouveaux modèles, peut-être aussi sur des transformations plus liées à la responsabilité sociale des entreprises, à la fois nous en tant que communicants, la manière dont on organise nos propres entreprises, et aussi auprès des annonceurs et des marques qu'on conseille.
Mais il est clair qu'aujourd'hui, on peut plus faire de la pub, du business, etc., comme avant. Vous créez donc une agence qui s'appelle The Good Company, donc là, le propos est affiché, mais en quoi, à part son nom, elle va être différente des autres agences.
Ouais, alors c'est un point important parce que sinon moi-même je tombe dans le social washing qu'on décrit. Et puis il faut essayer de s'appliquer à soi-même ce qu'on conseille aux autres. Sinon les conseillers sont pas les payeurs. Donc plusieurs choses, deux piliers. Le premier, c'est qu'on a établi une charte éthique qui nous engage sur un certain nombre de points à la fois environnementaux, sociaux, économiques, qui nous engage nous en interne, mais aussi par rapport à nos clients et par rapport à nos prestataires et partenaires, parce que je pense qu'il y a un new deal à trouver dans l'écosystème de la communication, où il y a plus de transparence, plus de partenariat. Ça, c'est un premier pilier de preuve. Et la deuxième preuve qui est très forte, c'était très important lorsqu'on a réfléchi au projet, et qui est d'ailleurs difficile, hein, même légalement, à créer, mais c'est l'idée d'un actionnariat salarié. Donc aujourd'hui, il y a 20% de Good Company, 20% des parts, en dur, donc pas des stock options, mais des parts réelles, qui sont réservées à l'ensemble des salariés qui souhaitent en être. Donc, qui, quel que soit d'ailleurs leur statut et leur fonction dans l'entreprise. Et c'est ça que on a voulu mettre en place aussi pour que, comme disent les Anglais, walk the talk, qu'on dise ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. 20%. Certains trouveront que c'est pas assez, d'autres trop. J'ai entendu les deux dans mes conseillers. Après, je me réfère un peu au benchmark en France. Il y a Vinci qui est une entreprise plutôt en pointe sur le sujet. 10% de l'actionnariat chez Vinci appartient aux salariés. Auchan qui historiquement est un acteur, c'est 15%. Nous, on est à 20%. Pour l'instant, c'était le bon équilibre qu'on a trouvé. Et on le fait pour à la fois, évidemment, incentiver d'un point de vue économique l'ensemble de l'équipe, mais au-delà de ça, les impliquer aussi dans la gouvernance de l'entreprise, pour que ça ait un sens pour eux, pour qu'ils participent à un projet collectif.
C'est une utopie ou c'est au contraire dans le sens du vent avec la loi Pacte, on a beaucoup parlé de la raison d'être des entreprises, finalement vous êtes dans cette ligne-là?
Oui, enfin c'est ce qu'on essaye de faire, c'est rendre les utopies réelles. Et puis les utopies, c'est vrai que le mot utopie a été utilisé pour parler de doux rêveurs. Thomas More, quand il écrit le livre Les Utopies, à la base, c'est pour aussi faire changer le monde, changer les mentalités. Donc moi, je suis très à l'aise avec le mot utopie. Après, il faut essayer de faire converger l'idéal avec le réel.
La rentabilité.
Et la rentabilité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a une tendance, et on n'est pas les seuls à le porter, il y a beaucoup, et d'ailleurs, plus on le porte, plus je serai heureux. J'ai pas envie d'avoir le monopole de ça. Et d'ailleurs, d'autres l'ont fait avant moi, et j'espère que d'autres le feront après nous aussi. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette idée binaire, d'un côté il y a le réalisme, de l'autre côté l'idéalisme, d'un côté il y a la responsabilité, de l'autre côté la rentabilité. Depuis le début du siècle, il y a des universitaires qui montrent qu'il y a des corrélations fortes entre rentabilité, et responsabilité. Il y a un livre extrêmement intéressant qui date maintenant d'une dizaine d'années déjà, de Jim Stengel, qui était l'ancien CMO de Procter & Gamble, qui s'appelait Grow. Pas good, mais grow, donc pas de croissance. Et il expliquait qu'en fait, les entreprises qui avaient la plus forte croissance étaient celles qui avaient des idéaux fortes et qui épousaient des causes fortes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui des grandes entreprises comme Procter & Gamble ou Unilever se positionnent sur le good. C'est pas uniquement pour des raisons idéalistes, mais c'est aussi pour des raisons de business, d'efficacité. Je pense qu'il est possible de concilier les deux. Et il faut concilier les deux, d'ailleurs.
Mais justement, puisque tout le monde, au fond, justement, vous citez Procter ou d'autres grands groupes, et puis il y a d'autres agences, comme vous l'avez dit, il y a Change, entre autres, qui s'est lancé là-dessus. Comment vous allez vous distinguer? Parce que, et puis, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous allez vous distinguer? Est-ce que les autres, c'est bad company? Parce qu'après tout, si vous êtes good.
Non, je pense qu'il faut, j'ai pas envie de donner de leçons aux autres. Et je me suis inspiré d'autres, et on s'est inspiré d'autres pour le faire. Non, je pense qu'il n'y a pas de bad company. Je pense que il faut juste que on crée un mouvement. Un des premiers à avoir réfléchi à ça, c'est Thomas Kosler, et il dit voilà, moi je veux créer un mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de fonder une agence. En fait, c'est d'initier ou en tout cas de prolonger un mouvement de fond.
Oui, mais est-ce qu'à un moment le message éthique, il efface pas le message produit quand même?
C'est une question qu'on peut se poser, mais là aussi les études sont assez intéressantes. Il y a une étude qui est sortie d'Accenture il y a deux jours, où on peut prendre l'exemple d'Edelman qui fait une étude tous les ans là-dessus. Vous remarquerez que je cite des comptes, qui montrent que les gens, en fait, ils en ont un peu marre qu'on leur vend des produits de manière très verticale, top-down. Et qu'on leur parle que du produit, avec un sort de nombrilisme du produit. Et qu'au contraire, ils préfèrent des produits qui, au-delà du produit, incarnent aussi une cause, des convictions personnelles, des idéaux auxquels ils adhèrent. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut être une communication à la fois éthique, mais aussi efficace. Et c'est les deux jambes, c'est pas une jambe ou l'autre, c'est les deux ensemble. C'est cette corrélation qui est intéressante. Sinon, on n'y arrivera pas. Si c'est que des bons sentiments, on n'y arrivera pas.
Vous allez choisir vos clients ? Je veux dire prendre des clients qui c'est que des good clients, ou est-ce que vous allez prendre des clients moins bons mais que vous voulez éduquer en quelque sorte?
Alors j'aurais jamais prétendu d'éduquer aucun client parce que les clients connaissent mieux leur business que nous, mais en revanche je pense que il y a certains clients avec qui on travaillera pas.
Ouais.
Il y a des cas évidents.
Mais qui se tourneront peut-être pas vers vous de toute façon.
De toute façon, c'est aussi un peu de partie de notre stratégie. Une raison pour laquelle c'est écrit sur le fronton The Good Company, oui. C'est pour dire à ceux qui veulent être bad, venez pas nous voir et on perdra pas nos temps.
Mais ils pourraient vouloir devenir meilleurs. Je veux dire, on n'est pas forcément bad par
essence.
Oui. Mais je veux dire, on est bad. Enfin, bon, peu importe. Mais vous pourriez. C'est en ça que je disais les éduquer. Je veux dire, prendre des clients qui sont pas naturellement. Bio et vertueux, non?
Oui, bien sûr, la plupart des marques sont entre les deux. Mais je pense que la plupart des marques ont pris conscience aujourd'hui qu'ils doivent aller vers une communication et des actions, parce que les deux vont ensemble, de plus en plus responsables. Pourquoi? Basiquement, parce que les consommateurs leur le demandent. Et que le consommateur est roi. Et le consommateur aujourd'hui leur dit, si vous ne incarnez pas une cause, si vous n'avez pas, défendez pas des idéaux, si vous n'avez pas de purpose qui dépasse le produit, on va pas vous acheter, on va préférer d'autres marques. Donc, ça exclut quelques entreprises, de certains secteurs, les marchands d'armes, c'est pas mal pour mon cœur de cible, clairement. Néanmoins, la plupart des autres marques aujourd'hui prennent conscience qu'ils doivent aller dans ce sens-là et on peut les accompagner. On n'est pas les seuls et il faut que tout le monde le fasse d'ailleurs, mais ça fait partie de notre job, oui.
Merci beaucoup, Luc Wise. Je rappelle que vous êtes le fondateur de The Good Company.
BFM Business, Hebdo.com. L'édito.
Avec cette semaine, Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte, vous avez choisi de nous parler du Super Bowl cette semaine.
Oui Aurélie, parce que ce n'est pas seulement la finale du championnat de foot US. Le Super Bowl, c'est des records d'audience absolument incroyables. C'est 110 millions de téléspectateurs aux États-Unis, 1 milliard dans le monde. Donc forcément, c'est la scène d'un certain nombre de spots de pub très suivis. Et c'est l'écran de pub le plus cher au monde, puisqu'on estime à 5 millions de dollars les 30 secondes.
Waouh.
Oui. Forcément, chaque année, les amateurs de bonnes pubs le scrutent et les publicitaires se donnent les moyens de tirer leur épingle du jeu en redoublant d'ingéniosité.
Et donc, il y a une marque qui a déjà tiré son épingle du jeu ?
Eh bien oui, Frédéric. Avant même le Super Bowl, Skittles, en l'occurrence, en décidant de ne pas diffuser de pub pendant le Super Bowl. Par contre, ils proposent à ceux qui voudraient voir leur campagne de s'offrir une place pour aller la regarder, puisque en lieu et place des 30 secondes à 5 millions de dollars, ils se sont offerts une comédie musicale de 30 minutes, jouée lors d'une représentation exclusive à Broadway quelques heures avant le Super Bowl, avec dans le rôle du protagoniste, le comédien qu'on connaît sous le nom de Dexter dans nos petits écrans. Alors, quelques extraits des répétitions ont suffi à créer le buzz. Les billets qui étaient quand même vendus, hein, entre $30 et $250, sont tous partis dans la foulée. Les bénéfices étant reversés à une association caritative. L'engagement est toujours là. Ce qui est amusant, c'est que Skittles ne s'est pas limité à hacker le Super Bowl. Ils en ont aussi profité pour finalement tirer gravement dans les pattes de la publicité, avec les paroles des chansons qui ont été écrites pour l'occasion, comme celle baptisée, eh bien très sobrement, la pub ruine tout. Elle pourrit Internet et la télé, elle spamme ma boîte mail ou encore elle me montre à quel point on ne peut être parfait et à quel point je ne le suis pas.
Eh ben, pourtant, Skittles, ils étaient plutôt habitués jusque-là à aller dans le Super Bowl. Enfin...
Oui, chaque année, avec des pubs très décalées, ouais. Très loin, cela dit, des clichés qu'ils critiquent ici. Cela dit, dès l'an dernier, ils avaient commencé à être un petit peu trublions puisqu'ils avaient en effet conçu un spot pour le Super Bowl, mais qui était destiné à n'être vu que par un seul spectateur, un fan de la marque, lors du jeu. Et en fait, le film qu'ils ont diffusé n'était pas sur les grands écrans, mais plutôt en live sur Facebook. Et c'était simplement la réaction du dit spectateur qui avait découvert en exclusivité ce spot.
Le genre de truc que les fans de publicité adorent, quoi.
Absolument. D'ailleurs, la marque et son agence DDB étaient invités au Festival de la pub de Cannes pour revenir un peu sur cette stratégie. Et ils l'ont expliqué en disant, on a dépensé notre argent différemment, on a décidé de créer plus de contenu. Tout est dans la pertinence de l'idée créative, dans le potentiel de sa portée. Un public conquis qui ne manquera pas de regarder de très près ce qui sera diffusé sur les écrans dimanche soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, comme ils le font religieusement depuis toujours, puisque le Super Bowl est historiquement le lieu de multiples révolutions créatives.
Vous avez des exemples ?
La première qui me vient en tête, c'est celle de 1984, qui avait vu le spot du même nom diffusé par la marque à la pomme, Apple, qui communiquait pour la première fois sur son premier ordinateur, le 128K, avec un spot signé Ridley Scott.
Wow.
À l'époque, à l'apogée de son art, il était juste après Alien notamment, et qui en fait filait la métaphore du roman de George Orwell sur le même thème, avec Big Brother, qui était incarné par, ironie de l'histoire, un grand écran, non pas d'Internet, mais de télévision. Et ce qui était intéressant, c'est le premier spot qui parlait d'un produit sans le montrer, et le vendait sans expliquer son intérêt.
Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, on parle de la communication des entrepreneurs avec Xavier Kergal, directeur général du Salon des Entrepreneurs, qui se tiendra les 6 et 7 février à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Juliette Eskenazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'agence Poussin Communication, dédiée justement aux entrepreneurs. Xavier Kergal, pourquoi un événement consacré aux entrepreneurs ?
Pour leur communication aussi, déjà, et pour la communication du mot entrepreneur, parce que toute l'histoire de... On a d'abord eu au 19e siècle et au 20e le patronat. C'était pas simple à gérer comme mot. Après, on a eu les grands patrons aussi, qui étaient pas très bons en image d'entrepreneur.
Là, vous vous adressez plus aux petits patrons.
Et là, on s'adresse aux petits. C'est quand il y a une vingtaine d'années, le politique a découvert que l'emploi était plus chez les petits, les sans-grades, entre guillemets. On va pas dire les gilets jaunes des entrepreneurs, parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est les petits. Et donc, ils ont besoin de communication. Et la communication de ce mot aussi, pour le valoriser, parce que c'est un mot très noble.
Et on dit maintenant, les entrepreneurs, ils n'ont pas été remplacés par des start-upeurs, ou c'est des start-upeurs qui sont...
Alors c'est le problème, c'est le problème.
Dans la com, justement.
Là, vous mettez le doigt sur justement un sujet, c'est que le mot start-up, qui a très bien marché à partir des années 2000, on va dire, maintenant peut devenir aussi un mot qui n'est pas forcément bien perçu par l'ensemble, je dirais, des individus, parce que là aussi, il y a tout un tas de start-up, ils sont pas plus entrepreneurs que ma grand-mère, ça peut être pour faire des coups, etc. Donc à chaque fois, on a avec ce mot entrepreneur, alors qu'il y a 2,5 millions de petits entrepreneurs qui portent véritablement l'entreprise, peu importe qu'il y ait 2 salariés, 5 salariés ou 10 salariés, mais voilà, on a une dichotomie avec ce mot, et l'univers des start-up est pas simple en ce moment.
Et justement, et Juliette Eskenazi, comment est-ce que vous arrivez à les accompagner, vous, au quotidien? Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas les moyens d'une grosse firme pour communiquer, pour se mettre en avant, pour aller sur des salons comme celui de Xavier Kergal.
On les accompagne parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ont grandement besoin, en réalité. Bien plus d'ailleurs que les marques déjà connues. Et c'est du coup l'origine, en fait, de cette agence-là, il y a 5 ans et demi, de se dire, en fait, il y a plein de gens qui sont pleins d'ambition, plein d'énergie, qui connaissent bien l'activité qu'ils vont développer, mais qui ne savent pas du tout ni comment expliquer ce qu'ils font, tout simplement, ni comment se faire connaître. Et ils créent une entreprise, mais ils ne savent pas comment créer une marque. Et en réalité, c'est là l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, dans la jungle concurrentielle, il est nécessaire de se démarquer et de trouver, de créer une marque qui répond aux ambitions. Donc, comme le disait Xavier, c'est pas forcément, on peut être un salarié de salarié, c'est pas forcément l'ambition de devenir la grosse start-up ou la multinationale, mais c'est de créer son propre emploi, d'en créer certains aussi avec, et de créer une marque forte. Et c'est avec des bonnes idées, assez accessible en termes de tarifs, et l'utilisation notamment des outils digitaux de manière efficace, qu'on va réussir à les aider à émerger et à se faire connaître, à sortir de leur coquille, en fait, d'où l'origine du poussin.
Frédéric.
Parce que du coup, en effet, les GAFA, les Facebook, les Google, c'est Google qui a commencé, drague aussi considérablement, cette population, parce que c'est leur
business,
clientèle, c'est leur business.
C'est leur business.
Et vous, alors, au milieu de ça, avec le salon, vous apportez le contact humain?
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un complément, je dirais, de tous les réseaux sociaux et de toute la partie digitale. Et on s'aperçoit que plus le digital et le numérique se développent, plus certains salons, notamment le salon des entrepreneurs, se développent aussi. Parce qu'il y a besoin de ce contact permanent, surtout chez les entrepreneurs. Quand vous avez 60 000 entrepreneurs ou anté-créateurs qui viennent au salon, c'est une borne énergétique, une bombe d'énergie très très importante. Et les GAFA dont vous parliez ont énormément besoin, c'est-à-dire leurs clients, mais oui, comme les experts comptables ou comme Microsoft il y a 20 ans. Je comprenais pas pourquoi Microsoft, il y a 20 ans, venait au sein des entrepreneurs ou lors des experts comptables. Mais on m'a répondu, mais c'est très simple, Xavier, nous, il faut bien qu'on aille tondre la laine, mais pour tondre la laine, il faut qu'il y ait des moutons pleins de laine. Donc on a besoin de petites entreprises.
Oui, et les petites entreprises qui sont pas forcément toutes des startups. On l'évoquait. Exactement. Justement, ouais, l'innovation qui est évidemment, ouais, essentielle, mais l'entrepreneuriat, et c'est ce qu'on voit au Salon des Entrepreneurs, et ce sont nos clients chez Poussin, ce sont des métiers traditionnels qui peuvent être repensés aussi, mais c'est l'entrepreneur, c'est l'artisan, c'est le boulanger, c'est des marques de cosmétiques, et donc là aussi, ils ont besoin de contact humain, c'est très important, d'autant qu'il y a une certaine solitude dans l'aventure entrepreneuriale, et les événements comme le Salon des Entrepreneurs permettent de se connecter et de retrouver l'énergie, en fait, de rallumer la flamme quand on est un peu fatigué.
Mais c'est marrant parce que je vous entends dire ça et en même temps, je réfléchis aux têtes d'affiche du Salon des Entrepreneurs. C'est beaucoup quand même de figures du digital. Je pense à Frédéric Mazzella, je pense à Pauline Legnaud ou encore à Ludovic Lemour. Et on n'a pas un plombier.
Alors, il y a un phénomène d'icône. C'est la projection et identification. On n'a pas eu pendant des décennies, on n'avait pas de modèle. C'est pour ça que les entrepreneurs, ça marchait pas. S'il y avait Tapie et Afflelou, allez, on va dire, et le père Leclerc, vous en parliez tout à l'heure du fils, mais le père Leclerc. Donc il n'y a pas de modèle. Maintenant, depuis le début des années 2000, les modèles sont arrivés, beaucoup dans le digital, bien évidemment, ou dans des évolutions de vente privée, mais aussi le digital. Et finalement, cette explosion a permis aux médias, au salon, aux hommes politiques, de mettre en avant des modèles et des icônes. Alors ça, c'est très important, c'est comme dans le cinéma. Dès qu'il y a des modèles, dès qu'il y a des icônes, ça attire, ça donne envie, et on avait besoin de ça. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que les désillusions peuvent être assez fortes. C'est quand vous voyez un Niel, un Simon Sini, un Grandjean ou d'autres sur scène, ou des Mazzella, tout le monde ne sera pas comme ça. Mais bon, à la limite, peu importe.
On a L'idée, c'est de donner envie, quoi.
700 000 créations d'entreprises, pratiquement 2018. On n'a jamais vu ça.
C'est vrai. Merci beaucoup Xavier Kergal, directeur général du Salon des Entrepreneurs, et Juliette Eskenazi, fondatrice de l'agence Poussin Communication.
BFM Business, Hebdocom, comme un chef.
Avec aujourd'hui Emmanuel Chila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur, consultant en prise de parole et stratégie de communication sur les réseaux sociaux au sein de votre entreprise, Wita, on dit?
Wita.
Et vous êtes à l'affiche d'Aller vous faire communiquer, c'est un one man conf show. Vous qui êtes un professionnel de la com, vous n'auriez pas pu trouver un truc plus simple?
Si, j'avoue, j'aurais pu dire un one man show ou une conférence, mais comme les deux termes étaient déjà pris, je me suis dit, je vais essayer d'innover. Bon. Donc j'ai mélangé les deux.
Blague à part, c'est quoi cet événement hybride?
Le but était de me dire, en fait, dans ma vie de formateur, j'ai eu l'occasion de voir que le savoir était quelque chose d'intéressant, mais au fil du temps, le fait de le donner, c'est compliqué. L'humour est un bon moyen pour transmettre des messages de manière facile au plus grand public. Donc je me suis dit, eh bien Manu, tu vas utiliser la communication, ce qu'on apprend dans les bases, tu vas mélanger ça avec, en fait, tout simplement tes expériences de vie, tes expériences professionnelles, tu vas faire un mix de tout ça avec un peu de danse, un peu d'humour, et puis tu vas le donner aux gens et tu vas voir ce qu'ils vont donner.
Et ça s'adresse à qui alors?
Ben, au grand public, c'est-à-dire que mon but était de toucher aussi bien les professionnels que des parents, que des enfants, que des personnes âgées. Dedans, on a à l'intérieur à chaque fois des rappels de notre vie perso ou de notre vie pro dans des situations dans lesquelles on peut changer des choses. La communication, l'écoute, la critique ou encore la perception ou l'interprétation.
Le but, c'est quoi? C'est de les amener à mieux se comprendre entre eux, de s'exprimer devant des gens un jour? Enfin, c'est...
Tout. Oh, c'est super, c'est bon, même plus besoin de voir le spectacle. En fait, c'est tout simplement de mettre des graines dans leur tête pour se rappeler que souvent, en fait, on nous a appris plein de choses dans la vie, mais on nous a pas appris à communiquer. On apprend des maths, de l'histoire. Par contre, communiquer, c'est quelque chose qu'on sait faire de base. Alors que c'est complètement faux. Communiquer, ça demande réellement des ressources, ça demande de savoir écouter, ça demande de savoir dire les bons mots. Et ça, eh bien, on sait le faire, mais il faut retravailler dessus.
Mais ça s'adresse alors plutôt à des gens en particulier dans les familles, dans les gens dans les entreprises. Comment est-ce que vous...
Bah, c'est pour ça que j'ai mélangé en fait mes expériences personnelles et mes expériences pro. En gros, je me suis rendu compte que certaines situations, notamment au niveau de l'écoute ou de la critique, c'est des situations qu'on vivait aussi bien à la maison, dans la manière dont on va parler avec ses sœurs, ses frères, que au boulot avec son chef ou encore avec ses collaborateurs. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que les gens font facilement des ponts en fait entre les deux situations.
Et l'humour et la com, ça fait toujours bon ménage ou il y a un moment où quand même on risque de pas être pris au sérieux?
C'est toujours pareil, je pense que le plus dur c'est le dosage. Et c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, c'est-à-dire je voulais que les gens passent un bon moment, mais que les idées restent en tête. Et c'est ça la plus grosse difficulté, c'est-à-dire que l'humour ne doit pas en fait submerger le contenu. Et je suis content, puisqu'à la fin, là, jusqu'à maintenant, les gens retiennent les petites idées.
Ils retiennent vos points clés, vous avez quoi, ouais. 8 grandes idées?
7. On peut en mettre une 8e, mais pour l'instant, c'est 7. 7 idées qu'on donne, et en fait, comme le spectacle est hyper interactif, c'est-à-dire que les gens montent sur scène, comme ils vivent une expérience...
Mais c'est terrible!
Oui, je sais, c'est horrible. Mais comme ils montent sur scène, obligatoirement, en fait, comme ils vivent une expérience, ils s'en souviennent.
Merci beaucoup, Emmanuel Chila. Je rappelle que vous êtes le 21 février au Palais des Glaces, le 27 mars et le 24 avril entre autres, à l'Apollo Théâtre à Paris. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.